Radio Spirale.
Cette entrée libre de jeu concerne la fonction même du théâtre. Le théâtre est-il surtout prise de parole citoyenne ou acte esthétique? Pour cette table ronde, qui avait lieu le 7 février 2011, Michel Vaïs avait réuni Sylvain Bélanger, Michel Lemieux, Lorraine Pintal et Annabelle Soutard.
Alors, il s'agit d'une entrée libre de jeu, la 57e entrée libre de la revue Jeu. Nous en faisons quelques-unes par année, qui font l'objet d'un article dans la revue. J'ai oublié de me présenter, Michel Vaïs, donc rédacteur en chef de Jeu. Alors, ça fait l'objet d'un article dans la revue. Cette fois-ci, le sujet du dossier qui accueillera cette entrée libre s'intitule, « Jouer dans la cité ». Et il est dirigé par Étienne Bourdage, qui est ici, présent. Et également, cette entrée libre est enregistrée parce qu'elle sera diffusée sur Radio Spirale, comme c'est le cas de toutes nos entrées libres. Radio Spirale, qui fait concurrence à la chaîne culturelle de Radio-Canada d'ailleurs, mais sur Internet. Voilà. Alors, donc,
pourquoi parler de concurrence?
Je remercie donc une fois de plus mes invités, je les présente, donc Lorraine Pintal, du Théâtre du Nouveau Monde, Annabelle Soutard, du Théâtre Porte-Parole, Michel Lemieux de 4D Arts et Sylvain Bélanger du Théâtre du Grand Jour. Voilà, alors le sujet, le théâtre est-il surtout, et j'ai mis surtout en italique, prise de parole citoyenne ou acte esthétique? Donc nous allons parler ici à la table pendant à peu près une heure et ensuite je vous inviterai à commenter ou à poser des questions et à cet effet je vous demanderai de parler dans les micros. Alors il y en a un près de cet escalier et un près de l'autre escalier. Et il est important qu'on puisse enregistrer ce que vous allez dire pour, comme je vous l'ai dit, pour la diffusion ultérieure de cette discussion. Alors, j'ai demandé à chacun de mes invités de préparer un petit texte liminaire de 2 à 3 minutes pour amorcer le débat. Et ensuite, ben, j'espère qu'il y aura débat. Alors, je n'ai pas imposé de place assignée à mes invités. Vous constatez qu'il y a deux femmes à ma droite et deux hommes à ma gauche, mais bon, c'est eux qui ont choisi ça. Donc, je n'ai pas voulu leur assigner de place en fonction de leur pratique telle qu'on peut l'imaginer. En tout cas, par le nom des compagnies auxquelles ils sont attachés. Alors, je constate qu'Annabelle Soutard a dans le nom de sa compagnie porte-parole le mot parole, hein, donc prise de parole, je pense que ça a un sens particulier pour elle. Et d'un autre côté, Michel Lemieux, dans le nom de sa compagnie, a le mot art. Donc, j'imagine que pour lui, l'acte artistique, c'est quelque chose d'important. Voilà, je m'en tiens. Bon, le grand jour, c'est évidemment aussi, on peut l'imaginer, une allusion au grand soir. Enfin, je ne sais pas, il nous dira si c'est
véridique.
Voilà, si c'est véridique.
dans mettre au grand jour.
Voilà. Alors, qui voudrait amorcer cette
et le TNF Nouveau Monde.
Le Nouveau Monde, je ne sais pas comment dire.
Je ne suis pas probablement la seule à ne pas être la fondatrice de la compagnie que je représente aujourd'hui.
Alors, est-ce que tu veux commencer, Lorraine?
Bon, je peux commencer, oui, mais voilà. C'est évident que si j'avais eu à trouver un titre ou un nom à une troupe, probablement que le Nouveau Monde est un des titres qui convient très bien à ce théâtre-là que je dirige depuis bientôt 18 ans. Mais en fait, je trouve le questionnement suggéré par Entrée Libre, Revue Jeu, très stimulant, sans vouloir tomber dans le cliché habituel, bravo pour vos beaux thèmes, mais ce que ça m'a fait, ça m'a permis de revenir quand même quelques 35 et presque 38 ans en arrière et de mesurer le chemin parcouru depuis la formation d'une compagnie que j'ai dirigée en collectif de direction qui s'appelait La Rallonge et je vais vous épargner l'historique, là, c'est pas ce que je veux faire, mais il est vrai que au moment où ces troupes ont été créées, je pourrais parler du Parmi nous, je pourrais parler bien avant du Théâtre des Cuisines, du Grand Cirque Ordinaire, du Théâtre des Pichoux, de l'Organisation O. Bref, on sait que dans les années 70, il y a eu une espèce de boulimie de création de compagnies. Et il est vrai qu'à ce moment-là, comme nous vivions une situation politique extrêmement fragile, instable, avec des victoires, avec des désillusions, c'est comme si l'engagement politique allait de soi. C'est comme si le fait de mettre le pied sur une scène relevait de l'acte politique. Il y avait tellement d'actes à poser, et le tout sous couvert d'une solidarité et d'un art du combat collectif qui était incontournable. Pour moi, au moment où j'ai commencé à faire ce type de théâtre-là, c'était impensable de m'isoler. Il fallait être mené par cet art collectif qui devenait un combat collectif et qui avait énormément d'injustices à dénoncer. Et entre autres, bien sûr, cette lutte que nous avons menée, je crois pas mal tous ensemble, pour une forme d'indépendance qui passait par la mise au bout d'un drapeau, la mise en valeur d'une langue et également d'un combat que l'on menait contre une domination, et elle était politique, et elle était linguistique. Alors c'était des valeurs contre lesquelles on s'élevait, et donc le théâtre politique prenait tout son sens. Par la suite, ayant quand même dirigé le Théâtre de la Rallonge pendant une quinzaine d'années, il est vrai que le mot « art » et le mot « politique » se sont confondus, simplement parce que nous étions donc issus d'une promotion au conservatoire et nous avions à cœur de développer aussi ce qu'était l'art de la scène. Et pendant plusieurs années, j'ai opposé le fait d'être à la fois un artiste avec rigueur, avec passion, avec l'idée d'innover, de créer des formes nouvelles, donc de réinventer les expressions artistiques. Et j'ai senti une espèce de dualité se dessiner entre ce désir de professionnaliser, si on veut, l'art que je défendais, et m'éloignant donc de ce combat collectif pour davantage prendre position dans la société pour la culture. Déjà, le combat de mettre la culture en haut de la pile des dossiers au gouvernement, c'est déjà une lutte en soi, et cette lutte a vraiment pris énormément de place. C'est ce qui fait qu'il y a eu des mutations au niveau des programmations, et je parle toujours de la rallonge. Nous étions très axés sur le théâtre allemand. Bien sûr, on va parler de Brecht, qui a été mon maître au Conservatoire d'art dramatique, et par la suite, Fassbinder, Rainer Müller, et bon, petit à petit, se diriger vers des œuvres dont le potentiel artistique semblait beaucoup plus fort que le potentiel politique. Et là, je pourrais parler de démarches beaucoup plus pointues qui nous ont même appelés à revisiter Tchekhov sous la plume de Pierre-Yves Lemieux. Alors, c'est comme si on avait vécu un peu les extrêmes. Donc, je me suis attardée surtout aux deux dernières questions, c'est-à-dire, le théâtre engagé n'est-il qu'un trip de jeunesse? Une expression dépassée qui a mal vieilli. Parlons de théâtre citoyen. Je crois qu'il y a des gens autour de la table qui vont être beaucoup plus en mesure que moi de parler de théâtre citoyen. Mais j'ose espérer que le théâtre engagé n'est pas qu'un trip de jeunesse. Mais il est vrai qu'il a pris d'autres formes. Mais je me suis amusée aussi, et c'est vous qui m'avez donné cette permission de relire ce qui, moi, m'a beaucoup inspirée lorsque j'ai commencé à faire du théâtre, et c'est le livre « Les arts et la révolution » de Bertolt Brecht. Et ce qu'il dit, c'est que les effets de l'art, lorsque elles annoncent une nouvelle manière de créer, quelle qu'elle soit, c'est automatiquement lié à des changements qui sont survenus dans la société dans laquelle on vit, et on a la prétention de dire que ces nouvelles formes annoncent aussi les mutations profondes qui vont influencer la société de demain. J'ai un magnifique extrait d'un poème de Fritz Bruegel qui a été pour moi une espèce de devise pendant très longtemps. « Nous sommes tels le souffle, l'air et le vent. L'ennemi ne peut nous saisir. Il s'aveugle à fixer le vide et sent seulement que nous mûrissons. Un jour, ils ne posséderont rien et nous posséderont tout. » Et moi, c'est les deux dernières lignes que j'ai retenues. Un jour, ces ennemis, qui parfois sont assez invisibles ou sournois. Aujourd'hui, je considère que l'ennemi est beaucoup plus sournois qu'avant. Il est presque invisible. Un jour, peut-être, dans mon utopie personnelle, il ne possédera rien et je posséderai tout. Et les gens qui s'abreuvent à l'art posséderont tout. Et plus j'ai évolué dans ce métier-là, et plus je me suis rendu compte que l'attitude critique que nous avions par rapport à ce que nous faisions devenait aussi un geste politique en soi. Ce que je déplore aujourd'hui, c'est que cette attitude critique est beaucoup plus édulcorée. Là, je ne parle pas des critiques, là, je parle de cette attitude critique qui est le fondement même de l'art que je pratique depuis tant d'années et qui se doit d'être aiguisée, qui se doit d'être parfois impitoyable si l'on veut vraiment être certain que ce qu'on présente sur les scènes, et dans mon cas, c'est l'art théâtral, ce qu'on présente sur les scènes a une raison d'être. Cette raison d'être, de plus en plus, elle s'apparente à l'existence même de nos individualités parce que le combat est devenu beaucoup plus individuel. Alors, cette simple, je considère que ma propre existence, elle est elle-même un acte politique en soi parce que de vivre de l'art aujourd'hui et de faire en sorte que cet art soit fréquenté par un public de plus en plus critique, c'est pour moi un combat de tous les jours. Et je la vis difficilement, cette bataille, ce combat-là. Je n'ai aucune certitude d'une victoire et c'est ce qui fait que parfois je sens qu'on est un peu aveugle dans notre démarche. C'est qu'on se bat, on se bat quotidiennement sans nécessairement penser qu'un jour on sera victorieux. Alors que toute mon éducation m'a amené à croire que lorsque je me bats, c'est pour vaincre quelque chose. Cette victoire-là, je la souhaite, mais je la souhaite à travers un art rigoureux, un art du présent. Même s'il s'abreuve à des classiques, un art d'aujourd'hui. Et ce qui me tient le plus à cœur en ce moment, c'est de présenter à ce public et à la communauté artistique qui est la mienne un art de rigueur, un art de passion, un art de nécessité, d'essayer d'éviter le plus possible ces œuvres qui, pour moi, je les qualifie de sottes, c'est-à-dire qu'elles n'ont rien à dire, et de, à travers cet art-là, de dire quelque chose et simplement de véhiculer ça aujourd'hui dans une société qui s'abreuve beaucoup à la facilité, qui nivelle par le bas la pensée, qui se contente parfois d'être conforme à ce que l'on attend d'elle. Pour moi, c'est déjà un combat.
D'accord. Merci, Lorraine. J'avais demandé quelques notes liminaires pour amorcer le débat. Tu pourras revenir sur ton exposé tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, donc, Lorraine a été accrochée beaucoup par les deux dernières phrases, hein, entre autres. Je veux savoir... ce qu'il en est des autres. Qui voudrait prendre la parole maintenant? Annabelle, Sylvain?
Je peux y aller.
Sylvain.
Je peux y aller. J'ai regardé la liste de questions pertinentes que je me pose moi-même, honnêtement, pas mal tous les jours, mm-hmm. dans ma pratique, tout ça. Et j'ai pas accroché à une ou deux questions. J'ai juste dit, je pense que pour aborder... tout ça, il fallait que j'y aille d'une façon très, très personnelle, tu sais, aujourd'hui. Puis, ça parle évidemment de la compagnie que j'ai fondée il y a 12 ans, qui s'appelle Le Grand Jour. Il faut que j'en parle parce que dans tout ce qui est dit là, je me méfie aussi. Il y a des grosses étiquettes, hein, il y a des gros mots là-dedans. Il y a des grosses choses qui sont connotées à des choses qui ont déjà existé ou qui... Puis je pense qu'il faut redéfinir pour soi-même les choses si on veut en parler le plus honnêtement possible. Quand on parle de politique, quand on parle d'engagé, c'est quoi? C'est quoi du théâtre politique? C'est quoi du théâtre engagé? C'est quoi du théâtre utile? Fait que j'ai envie de l'aborder d'une façon très, très personnelle, puis c'est parler un petit peu de ma démarche à l'interne dans la compagnie. Voilà. Donc, je vais le présenter comme ça, mais vous allez voir pourquoi après. Donc, j'ai choisi de fonder une compagnie axée sur la responsabilité sociale. Et ça aussi, c'est une étiquette, c'est même devenu une culture d'entreprise. C'est partout maintenant, la responsabilité sociale. Il y a beaucoup de grandes entreprises, si on leur volait responsabilité sociale, si tu n'en as pas, tu parais mal. Donc, moi, si j'ai une compagnie comme ça, il faut que je la définisse d'une manière très, très personnelle. Pour moi, c'est un théâtre de création axé sur la responsabilité sociale. C'est aussi un espace de recherche à la fois humanitaire et esthétique autour de la place du spectateur dans la représentation. Donc, la responsabilité sociale, moi, je l'aborde dans mon rapport au spectateur. Comment, lui, je le mets en scène et non pas comment je mets en scène mon message. Pourquoi? Parce que... je vais comme ça, c'est à travers une recherche au niveau de la forme, de comment on place le spectateur dans une expérience théâtrale, qu'on va, je crois, moi, lui parler aujourd'hui de son rôle de citoyen. C'est pas tant en lui parlant de citoyen qu'on va lui parler d'être un citoyen. Donc, c'est par la forme que j'aborde le fond, finalement. T'sais. Et c'est par son rôle de spectateur qu'évidemment, je parle aux citoyens. Donc, le fond est révélé par la forme, évidemment, toujours dans mon travail. Donc, comment travailler sur le spectateur? J'essaie toujours, que ça soit l'italienne, que ça soit là pour l'événement que je suis en train de créer, pour spectateurs seuls, isolés, en cabine, que ça soit dans une mise en scène que j'ai fait il y a plusieurs années dans un concept à la compagnie où est-ce que chaque spectateur choisissait son trajet, était seul dans des voitures avec des acteurs, était débarqué dans des stations, il y avait là un spectacle en privé là pour lui, dans un chapelet d'événements pour spectateurs seuls, que ce soit dans l'événement théâtre à domicile qu'on a fait, tout ça, c'est toujours pour changer le rapport entre le spectateur et la représentation. Parce que dans le monde dans lequel on vit, multitude de théâtres et de pratiques dans lesquelles on évolue, je crois qu'il ne faut pas prendre le théâtre pour acquis. Donc, il faut le redéfinir pour soi-même. Et ça, pour moi, ça va jusqu'à le spectateur, il est dans quelle position, dans quel type de jauge. Même cette disposition-là dit déjà énormément de choses. Quand tu décides de faire ça en mise en scène, là, tu décides déjà d'inclure dans ta mise en scène la mise en scène même de l'écoute du spectateur. Puis ça, je trouve que ça dit beaucoup, des fois plus que le message lui-même. En fait, moi, je fais confiance à ça. Donc, c'est d'aborder le politique par le poétique aussi, des fois. Que je dissocie jamais les deux. Donc voilà, j'ai l'impression de faire un théâtre, oui, politique, parce qu'il met toujours en scène un individu par rapport au collectif. Donc j'aborde le collectif par l'intime, toujours. Que ce soit même dans l'approche d'un personnage, mais aussi dans la façon dont le spectateur va être mis en scène dans la représentation, qui dit déjà beaucoup. Donc, j'ai vraiment l'impression de faire un théâtre politique. Je ne suis pas capable de dire que je fais un théâtre engagé, par contre. C'est drôle, hein? Si je suis vraiment honnête avec moi-même, là, j'ai vraiment l'impression que par les thèmes qu'on touche à la compagnie, que ce soit l'itinérance, que ce soit plein de choses, on l'aborde toujours par la métaphore, par l'allégorie, par le poétique, finalement, tu sais, la politique. On n'appelle jamais un chat un chat. On va tout le temps l'évoquer pour que la personne se le nomme lui-même, finalement. Je fais vraiment beaucoup confiance dans ma démarche au spectateur. Donc, dans l'absolu, je lui laisse toujours une place dans la lecture de l'œuvre. Je vais avoir plein d'exemples tout à l'heure là, de tout ça, évidemment. Là. Donc, voilà. Mais c'est juste un peu pour moi, pour ne pas prendre le théâtre pour acquis, de ne pas prendre les étiquettes non plus pour acquise, que je veux nommer d'une façon très, très personnelle, c'est quoi du théâtre politique ou du théâtre engagé ou la place du spectateur dans la représentation ou même la mise en scène, c'est quoi? Je pense que moi, je pense que dans un absolu, il y a un théâtre par créateur qui le fait. Il y a un théâtre par mise en scène, par metteur en scène, pardon. T'sais. Donc, voilà. Je suis un peu dans le désordre, mais... voilà, non, je reviendrai.
D'accord.
Plein de notes.
D'accord. Merci beaucoup, mais je constate quand même que vous avez repris plusieurs des idées qui se trouvent dans ces questions. Vous avez parlé d'une responsabilité sociale, hein, lorsque vous faites du théâtre. Vous avez parlé de théâtre politique, mais non pas engagé. Alors, il faudra faire ces nuances. Vous dites que vous abordez le politique par le poétique et l'individu par l'intime. Il y a plusieurs années, j'avais animé une entrée libre aussi sur l'engagement, enfin, je ne me rappelle pas le titre exact, mais c'était dans un dossier qui s'intitulait « L'engagement nouvelle vague ». Et il y avait entre autres Jean-Pierre Renfart, Olivier Py, enfin il y avait plusieurs personnes. Et on se disait que les termes ont vieilli et qu'il y a des mots qu'on ne peut plus utiliser. C'est pourquoi cette fois-ci à Jeux, on parle de théâtre citoyen. Bon, c'est la première fois, nous, dans la revue, qu'on en parle. Mais c'est sûr que c'est très difficile de nommer les choses. Alors, bon, qui veut enchaîner? Annabelle.
Excusez-moi. Bonjour. Alors, je crois que je vais aller directement aux questions, en fait, aux questions titres du dialogue. Le théâtre est-il surtout prise de parole citoyenne ou acte esthétique? Est-ce que je dois comprendre par ça que la prise... Est-ce que le mot esthétique, ça veut dire quelque chose de beau, de belle?
Non.
Est-ce que c'est la forme
C'est une des définitions du mot esthétique, mais il y en a plusieurs autres.
OK. Ben, parce que moi, quand je regarde ce mot-là et cette question-là, ce qui est présenté, c'est que la prise de parole ne peut pas être quelque chose d'esthétique, où la forme est importante, où la chose est belle. C'est surtout que la parole est plus importante. Alors, je vois comme une dichotomie, est-ce qu'on dit ça en français, artificielle là-dedans, parce que je trouve que la prise de parole, ça pourrait être quelque chose de très beau, de belle, que ça pourrait être quelque chose d'esthétique. C'est pour ça que je fais ce que je fais. Alors, voilà. L'autre chose que je veux aborder tout de suite, c'est que des fois, parce que Sylvain a dit que des fois, il faut définir des choses. Que la politique, quelque chose qui est politique, ça ne veut pas nécessairement dire partisan. C'est-à-dire que si on fait un théâtre engagé ou politique ou politisé, ça ne veut pas dire seulement qu'on fait un combat politique pour passer un message. Pour moi, c'est le contraire, en fait. Un théâtre politique ou engagé, c'est créer un espace où les voix peuvent partager le lieu. C'est d'essayer, c'est un lieu où on essaie de comprendre l'autre. Ça, c'est un espace qui existe presque plus dans notre société. Alors aujourd'hui, on a besoin que le théâtre fait ça. C'est complètement essentiel. Puis c'est beau. C'est très beau. je vais peut-être juste donner un exemple d'une pièce que j'ai créée en 2000. Ça s'appelait Novembre. Je suis partie en voiture avec une enregistreuse, puis je faisais des interviews avec des gens partout au Québec. Partout. Puis, c'était pendant une campagne électorale. Puis, je demandais des gens des simples questions. Qu'est-ce que ça veut dire, la démocratie? À un moment donné, j'étais à Baie-Comeau dans un bureau de campagne pour le Parti libéral avec des bénévoles. Puis, la réponse était, « Oh non, on n'est pas au courant de ça. On ne lit pas des journaux. » Alors, quand les gens me demandent pourquoi on a besoin d'avoir un théâtre politique engagé, je dis c'est parce qu'aujourd'hui, la démocratie est presque morte. On a besoin de l'animer, puis ça pourrait être très, très, très divertissant de le faire, puis très esthétique. Lieu de l'utopie et détaché du monde, le théâtre peut-il vraiment proposer des solutions aux problèmes sociaux? Détaché du monde? Sylvain, tu ne pourrais pas être en accord avec ça. Détaché du monde, c'est le lieu où on peut trouver notre lien avec le monde, vraiment par excellence, le théâtre. Des fois, je rencontre les gens après avoir vu un spectacle, pas mon spectacle, un autre spectacle, puis ils disent, j'ai pu trouver mon sens dans le monde à travers cette pièce-là. Je peux retourner à la réalité avec un sens de pourquoi est-ce que je suis ici. Ça, c'est... Il n'y a pas beaucoup de place où on trouve ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste le spectacle. C'est les spectateurs, c'est les gens qu'on rencontre face à face, dans un lieu, et ça c'est un petit peu la définition de la politique. La politique, c'est devenu quelque chose de bad, de sale, de la corruption, tout ça. Non, la politique, ça veut dire l'activité où on... Ben, c'est quoi? C'est l'activité de partager un lieu. Un lieu qui est déligné des fois par des frontières. Écoute, ça c'est le Canada, ça c'est les États-Unis, etc. Mais il faut qu'on partage, et pour partager, il faut qu'on est capable de parler. Il faut qu'on partage une parole. Puis il faut qu'on se rassemble pour partager une parole. C'est ça qu'on fait chez Porte-Parole, non pas parce qu'on veut passer un message ou qu'on est plus intelligent que nos spectateurs ou qu'on veut faire un combat pour le marxisme ou le féminisme. Non. C'est pour que vous, vous placez votre voix dans un espace et moi, j'essaie de vous écouter. Et si je suis capable de vous écouter, peut-être on peut partager un espace ensemble. C'est juste ça. C'est à travers l'anecdote humaine, la parole de notre humanité, mais c'est à l'écoute de l'autre, toujours. Alors, je vais laisser ça, j'ai plusieurs autres choses à dire, mais voilà.
Merci bien, Annabelle. Alors, j'avais oublié de dire quand même, de préciser que les personnes qui sont ici ont tous un spectacle en cours. Qui, alors, dans son cas, Sexy Béton va prendre l'affiche après-demain, je pense.
Oui, mercredi.
Oui, c'est ça. C'est à...
Salle Fred Barry du Théâtre Denise Pelletier.
Salle Fred Barry. Le grand jour, ben, j'ai vu Les Mutants...
C'est la banquette arrière,
mais c'est quand même Sylvain Bélanger qui en a fait la mise en scène, et ça, c'était l'espace Go. Et puis, et du côté de Michel Lemieux, évidemment, il y a La Belle et la Bête qui est à l'affiche au Théâtre du Nouveau Monde, voilà, que dirige Lorraine. Alors, à toi, Michel.
Ben, moi, en fait, avec mon collègue Victor Pilon, depuis plus de 25 ans, on ne peut pas dire qu'on est vraiment des gens de théâtre, on est des gens de scène, on fait des arts de la scène. Un spectacle va être plus dirigé vers la danse, qui est un art beaucoup plus abstrait, vers l'opéra, vers le cirque et quelquefois vers le théâtre, ce qui nous amène à côtoyer différents artistes. Et quand on travaille d'ailleurs avec les acteurs, on leur dit toujours, on ne veut pas travailler avec vous comme acteur, on veut travailler avec vous comme artiste, comme humain avant tout. Alors c'est sûr que le travail qu'on fait est, comporte des aspects nouveaux, ce qui omnubile souvent les spectateurs et les critiques. On parle souvent que du nouveau tout beau. On voit pas derrière, par exemple, toute la réflexion qui est un peu cachée au travers de tout ce feu d'artifice. Mais il y a quand même réflexion. Et c'est sûr qu'on ne fait pas un travail sociopolitiquement engagé. Mais avant d'être un citoyen, je pense qu'on est des humains. Et comme disait Lorraine, on vit de plus en plus dans un monde individualiste et nous, comme artistes, je pense qu'on est des antennes, on reçoit les choses et on les recommunique. On n'invente rien, dans le fond, on fait juste recevoir et retransmettre. Mais Victor et moi, on travaille vraiment à un niveau intime avec le spectateur. Et donc, on ne s'adresse pas à une foule, on s'adresse à un spectateur à la fois. Et on les hypnotise, en quelque part, on les rend un peu... par le merveilleux, on les sort de l'hyper-réalisme de la réalité, de la société dans laquelle on vit, et tout d'un coup, on regarde le monde d'une façon différente. Ce qui ne veut pas dire que nos spectacles n'ont pas d'implication sociale. Par exemple, on a un spectacle qui est encore en tournée, qui célèbre l'œuvre de Norman McLaren. Et Norman McLaren, qui a été l'artiste abstrait par excellence pendant des années, qui s'est fait accuser dans les années 70 d'être un artiste inutile parce qu'il n'était pas politique. Il a fait à peu près un film politique voisin, qui a quand même été, qui a marqué énormément. Et pour nous, c'est important de faire un spectacle sur un artiste qui est oublié maintenant. Peut-être qu'on le connaît ici, Norman McLaren, mais je vous le jure, on le joue à travers le monde, ce spectacle-là. Norman McLaren est complètement oublié, surtout au Québec et au Canada, ce qui est une marque, en fait, d'amnésie culturelle. Et cette amnésie culturelle, il faut l'adresser. C'est écrit « Je me souviens » sur les licences d'auto, mais dans le fond, je m'en souviens plus pantoute. Et je pense que, par le biais de raconter l'histoire de cet homme et de son art, on arrive à toucher à quelque chose de social, c'est-à-dire l'amnésie. Quand on a fait « La tempête » de Shakespeare au TNM, ben, « La tempête », c'est l'histoire de Prospero qui veut se venger de ses ennemis. Alors, la vengeance, y a-t-il quelque chose de plus d'actualité que ça? Et la vengeance politique et comment faire la paix avec... Alors, c'est sûr que oui, on aborde des sujets, mais toujours au travers de l'intime, de l'humain. Et on part du spectaculaire pour aller vers l'intime et de l'intime pour aller vers le spectaculaire. Le spectaculaire, il est là simplement pour transporter le spectateur. Et j'ai lu hier dans une... Moi, je suis un grand amateur. Je ne lis pas beaucoup de revues. Je lis la revue Jeu. Mais je ne lis pas beaucoup d'écrits sur le théâtre. Mais je lis beaucoup de magazines de vulgarisation scientifique. C'est mon dada. J'adore ça. Et hier, je suis tombé sur un article merveilleux sur le développement du cerveau chez les bébés, chez les enfants de moins de 3 ans. Alors, ils ont découvert par des tests de résonance magnétique que le cortex frontal était très peu utilisé chez les bébés. Les bébés font l'expérience du monde. Et le cortex se développe de plus en plus jusqu'à 20 ans, en fait. Le cerveau n'est pas terminé jusqu'à 20 ans. Et le cortex frontal, c'est le choix. C'est de pouvoir focaliser sur un canal à la fois, sur une chose. Je vous parle, je focalise sur un truc. Et ils ont fait des tests sur des adultes regardant un film. Et nos spectacles ressemblent un peu à un film. Et je pense que beaucoup de spectacles de théâtre, quand on y entre vraiment dans la représentation et que ça tient comme dans un fil, ça devient comme un film. Ça a les mêmes propriétés qu'un film. Et ces adultes, regardant le film, tout d'un coup, leur cortex frontal se mettait au repos. Ils faisaient l'expérience du film un peu comme un jeune enfant, très jeune enfant, fait l'expérience du monde, c'est-à-dire une expérience sensorielle, au-delà de l'intellect, une expérience vraiment de sens et d'émotion. Et même si dans nos spectacles, on fait une recherche, évidemment, qui nous amène dans l'intellect, nos spectacles s'adressent à d'autres sens. Alors, est-ce que ça fait un théâtre engagé? Je ne crois pas du tout que nous sommes engagés dans le sens sociopolitique du terme, mais dans le sens humain, oui, c'est un théâtre très engagé. De toute façon, en boutade, on pourrait dire qu'un artiste vraiment engagé dans son art, quand l'art devient vital, quand tu ne fais pas les choses simplement pour les faire, mais parce qu'elles sont éminemment vitales pour toi de les faire, ben, tu es un artiste engagé dans ton art. Donc oui, tu es un artiste engagé. Je pense que l'engagement, il peut être humain, il n'est pas seulement sociopolitique, il est aussi sociopolitique, mais il n'est pas seulement. Puis quand à la question, le théâtre est-il surtout prise de parole citoyenne ou acte esthétique, effectivement, ça les met comme en contradiction. Je pense que de prendre la parole, c'est un acte citoyen, quelle qu'elle soit. Il ne faut pas aller vers des choses sottes, des pièces sottes qui disent rien, mais si on se donne la peine de réfléchir à ce quoi on dit et comment on va le dire, et surtout poser des questions sans jamais y répondre, c'est-à-dire en laissant les spectateurs, en leur laissant la place à la réflexion, oui, c'est à la fois le théâtre et... Tu pourrais remplacer le surtout par à la fois prise de parole citoyenne et acte esthétique.
Moi, j'aime bien le surtout. Merci. Alors, justement, je veux dire quelque chose à propos du surtout, si vous permettez. Nous avons beaucoup réfléchi, beaucoup discuté à l'équipe de rédaction sur cette formulation. Et nous nous sommes dit, tous les participants vont dire qu'ils font les deux. Hein? Bon. Alors, on va dire surtout. Et moi, j'ai décidé de le mettre en italique pour dire qu'est-ce qui vient avant, qu'est-ce qui est plus important pour vous. Bien sûr, vous faites tous les deux parce que vous dites que tout est un acte, tout est une prise de parole citoyenne, et le théâtre, c'est toujours un acte esthétique, et une prise de parole, c'est toujours beau. C'est sûr que vous allez dire ça. Mais avant tout, je suis sûr qu'il y a quand même des oppositions. Il y a des choses que vient de dire...
Vous voulez dire qu'il faut faire un choix?
Oui, je sais. On fait toujours des choix. L'artiste fait toujours des choix. Mais je pense que des choses qu'a dites Michel Lemieux devraient forcément vous faire réagir, Annabelle et Sylvain. Lorsqu'il parle, par exemple, d'hypnotiser les spectateurs un à la fois. Est-ce que vous essayez d'hypnotiser les spectateurs ou de leur faire travailler leur cortex cérébral alors que lui, les fait mettre au repos? Alors, j'aimerais que vous réagissiez à ça.
Moi, premièrement, j'aimerais ça répondre. Est-il surtout prise de parole citoyenne ou acte esthétique? Pour moi, il est surtout prise de parole citoyenne, et c'est avec un acte esthétique que je remplis la mission de prendre la parole sur scène. Pour moi, il y en a un qui est qui sert l'autre. Mais si je dis d'abord pourquoi je fais le métier, c'est quoi mes obsessions? C'est d'essayer de relier l'artiste au monde, puis c'est de prendre la parole. Ça vient avant. Si je me motive dans le choix d'un texte, tout ça, c'est sûr qu'un texte qui, pour moi, pose des questions dérangeantes, urgentes à dire aujourd'hui, maintenant, pour définir le vivre ensemble, ce qui est un peu ma définition du politique, c'est sûr que je vais faire ça. avant une pièce où j'ai l'impression que l'auteur répond à ses propres questions. Donc, pour répondre, pour réagir, comme une bonne invitation, moi, j'aime ça lancer une bombe dans le public, puis après ça, que les gens s'arrangent avec les dégâts. Parce que sinon, si je leur dis, on va tous lancer la bombe à la même place, je vais écrire une lettre dans les journaux, je ne ferai pas une pièce de théâtre, je ne ferai pas un acte artistique. Pour qu'il y ait théâtre, il faut qu'il y ait métaphore, pour moi, il faut passer par l'allégorie. Puis quand je dis poétique, le politique par la poétique, c'est aussi dans la façon dont tu mets en scène les choses. Mais voilà, moi, je travaille toujours sur un miroir. Fait que c'est très dérangeant. C'est pas au niveau de l'hypnose, c'est plus un miroir qui est confrontant, qui est dérangeant, pour que la personne, à la fin d'un spectacle, me parle davantage d'elle que du spectacle. Ça, je peux vous le dire, ça fonctionne. Si je parle deux petites minutes de la pièce que j'ai montée avec Sophie Cadieux, cette fille-là, qu'on a joué pendant 5 ans, c'est là que j'ai pu vraiment vérifier l'authenticité de ma démarche. Quand les gens me parlaient davantage d'eux-mêmes et de leur adolescence que du spectacle lui-même, j'ai fait ma job. Ça a marché, ce miroir-là. Mais la façon d'y arriver, c'est pas en disant aux gens « réfléchis ». C'est en imposant à une actrice de ne pas bouger plus que 8 fois dans un spectacle sur un 4x8. Donc, les contraintes que je donnais à l'actrice étaient répercutées dans le public pour chacun des spectateurs. Donc, tout le monde avait l'impression de se faire parler à soi, finalement. Donc, c'était un spectateur à la fois, même dans une forme à l'italienne.
Moi, je veux répondre à ça. Quand je parle d'hypnose, je ne dis pas « endors ». On ne veut pas endormir le spectateur. On veut les mettre dans un autre état que l'état réaliste, pragmatique, intellectuel, où on vit la grande majorité du temps, et à toucher donc d'autres corps. Je suis d'accord avec toi, la bombe, dans certains cas, peut être politique, mais la bombe aussi peut être émotive. Et la bombe peut être de remettre en question ce qui est acquis dans notre vie. Donc, le merveilleux, la poétique remet en question les choses d'une autre façon. Par exemple, un sculpteur qui va faire une œuvre publique, il y en a plein d'œuvres de sculpture publique ici à Montréal. Souvent, c'est des œuvres très abstraites. Il y a eu un grand débat il y a encore un grand débat. Est-ce que la danse peut être un art engagé? Est-ce que ça prend absolument la parole pour être engagé?
Non.
La danse est extrêmement engagée, le corps est engagé. Tu comprends? Alors, est-ce que pour être engagé, il faut absolument s'adresser à l'intellectuel, à l'intellect des spectateurs? Ah, donc, moi, je pense que l'art en soi a une... Et c'est pour ça que je suis un amateur d'art abstrait, la musique est un art abstrait. L'art en soi a une raison d'être, nonobstant les sujets que tu traites. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant. Est-ce que l'art n'est qu'un acte esthétique? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce que, là, ici, on dit, est-ce que le théâtre est-il surtout prise de parole, donc engagement citoyen, ou un acte simplement pour l'art pour l'art? C'est là que ça devient...
Mais je trouve la formulation est ce qu'elle est. C'est ce qu'on nous a proposé, mais... On peut refaire un exercice d'écriture collective. Là. Je trouve que l'essentiel est posé, en fait. C'est ça qui est important de retenir. Et je ne peux pas m'empêcher quand même de dissocier le véritable théâtre engagé à la pratique qui est la nôtre ou des pratiques que je connais moins et qui sont sans doute très engagées. Mais il y a un théâtre qui existe encore, qui est le théâtre parmi nous. Ce théâtre-là, qui a été fondé au départ pour se mettre au service d'une population avec laquelle il travaille et leur mettre des mots, leur donner des moyens d'expression pour dénoncer une injustice ou revendiquer un droit, ça, c'est du vrai théâtre engagé. C'est du vrai.
C'est-à-dire,
engagé, et allons-y, engagé politiquement, c'est une démarche. Elle se veut rigoureuse, elle est accomplie avec des communautés. C'est un théâtre même qui a presque une mission beaucoup plus communautaire que tout ce que nous, on peut faire.
Et tu veux dire qu'ici et maintenant, on ne peut plus faire ça?
Oh, je ne dis pas qu'on ne peut plus le faire. Le théâtre parmi nous continue à le faire.
Oui.
Et il y a certainement d'autres théâtres qui le font avec... Et j'irai plus loin. Moi, je réagis à ce qu'Annabelle a dit. Contrairement à toi, s'il y a lieu que je prenne une parole simplement pour dénoncer l'inégalité entre les hommes et les femmes, et que ce soit le thème que je vais véhiculer pour arriver à sensibiliser les gens au fait que c'est encore présent dans nos sociétés, je n'aurai aucune gêne à dire que je fais du théâtre engagé politiquement au service de la cause féministe. Je n'en aurai aucune. C'est encore des événements qui sont malheureusement trop présents dans notre vie, même si on se dit une société évoluée. Et toute pièce qui dénoncera les injustices ou les abus faits aux femmes, pour moi, ça m'apparaît un geste social, politique, engagé et qui peut être très esthétique. Parce que l'esthétisme au service d'un propos, l'esthétisme en tant que tel, est autant un esthétisme de laideur, de cruauté que de beauté ou que de poésie. Mais il faut quand même mesurer le poids de nos mots et savoir que si on décide de faire un théâtre engagé, c'est une école, elle existe et elle a sa place. Mais lorsqu'on parle de contact avec l'intimité du spectateur, c'est une autre forme d'engagement. Mais je ne qualifierais pas cet engagement de politique. C'est un engagement qui nous permet de transformer la société. Les exemples que tu donnes par rapport à un individu qui est changé ou transformé par la représentation d'un spectacle à laquelle il a assisté, je veux dire, elles sont là dans tous nos théâtres. En fait, je le souhaite, parce que sinon, on ne joue pas notre rôle.
Tu parles à Sylvain, les exemples que Sylvain...
On ne joue pas notre rôle. Je pourrais relater 1000 témoignages, autant pour La Belle et la Bête que pour Les Oranges sont vertes de Claude Beauvrou ou pour une création comme L'imposture d'Évelyne de la Chenelière. Et il est évident que le spectateur qui est là, captif dans une salle, s'il ne se sent pas interpellé par ce que tu fais, ben oui, là, tu peux aiguiser ton sens critique et dire « je suis peut-être passé à côté de ce dialogue que j'ai voulu créer avec le spectateur ». Mais ça n'empêche pas qu'il y a des œuvres qui ne trouvent jamais leur public parce qu'elles sont dans une autre sphère d'expression beaucoup plus esthétisante, et il est très possible que cette œuvre-là ne rencontrera jamais, ne touchera jamais quelqu'un à l'heure où on se parle, mais c'est une œuvre qu'on reverra dans 40 ans en se disant qu'elle avait servi à inventer un autre langage. Alors, l'effet immédiat de la représentation sur le spectateur, oui, le témoignage est très important pour nous aider à continuer notre démarche, mais à mon avis, il faut l'aiguiser autrement. Et c'est là où on se doit d'être un artiste engagé et faire des choix et avoir des prises de position. Elles peuvent déranger, elles peuvent ne pas plaire à tous, mais cette prise de position est essentielle à l'art que je pratique.
Annabelle, est-ce que vos spectateurs sont aussi transformés par ce que vous leur proposez que ces gens que vous interviewez à Bécomo dans un local du Parti libéral?
Est-ce que les spectateurs sont transformés? C'est
oui,
ça la question?
C'est ça, comme je disais tout à l'heure, comme le souhaite Sylvain.
Ben, des fois.
Et Michel.
Je dois dire que souvent, après une pièce de porte-parole, on fait des discussions publiques, souvent animées par quelqu'un dans l'équipe ou par quelqu'un de l'extérieur. Puis je trouve que des fois, les débats ou les discussions sont plus animés que ce qu'on vient de voir sur scène. C'est incroyable, des fois, comment l'expérience théâtre peut donner une plateforme ou une façon d'écouter qui n'était pas là avant pour que le dialogue soit plus provocant, plus ouvert, plus tolérant. Alors, oui, je vois cette transformation-là. Mais c'est aussi parce qu'on demande aux spectateurs vraiment de rester dans la salle, que le théâtre, que la pièce n'est pas terminée avec la pièce, que ça continue avec leur dialogue public. Je veux juste répondre à quelques-unes des idées qui ont été soulevées. D'abord, quand on dit « engagé », je crois qu'il faut préciser un petit peu, parce que « engagé » à quoi? Ça n'existe pas tout seul, ce mot-là. Des fois, quand je regarde mes deux filles...
C'est tout ça, depuis Camus et Sartre, je regarde politiquement.
Ben, c'est ça. C'est juste parce qu'on a lancé ce mot plusieurs fois dans le débat déjà, et c'est sûr que si on assiste à une pièce ou on aime la pièce, on est transporté par l'histoire, on peut dire que cette personne-là est engagée dans l'histoire. Est-ce que ça veut dire, dans la définition de Brecht, qui est en fait... voulait que la personne, le spectateur, soit consciente. Et ça veut dire pas manipuler, pas s'endormir ou pas transporter par l'expérience pour qu'il soit comme il oublie soi-même. Au contraire, il faisait des transitions complètement alienating, comme on dit en anglais, pour justement faire awaken. Le spectateur, excusez-moi, des fois je vais parler mon réveiller le spectateur pour qu'ils disent « Oh non, tout ce que j'ai pensé, n'est pas correct. J'ai jamais pensé à ça. Puis plus tard dans la pièce, oh non, j'ai pas pensé à ça. Toujours en train de réveiller le spectateur. Puis des fois, je crois qu'on utilise le mot engagé comme, oh oui, la personne était vraiment là-dedans. Pour moi, c'est pas nécessairement engagé. Quelqu'un engagé est en train de se questionner et questionner sa place vis-à-vis sa société. Et puis, parce que moi, je regarde mes deux filles qui ont 5 ans et 7 ans, sont vraiment engagées à regarder des films de Disney. Vraiment engagées. Mais voilà. Je trouve qu'il faut préciser avec ce mot-là. Voilà. Ouais. Puis, peut-être il faut que je te réponde sur l'idée de prendre une position face à une situation. C'est vrai que les artistes, ils ont des positions. Quand ils font, ils racontent une histoire, il y a toujours une subjectivité là-dedans. Mais je trouve que des fois, si ce qu'on veut faire avec une pièce de théâtre ou n'importe quoi, c'est de vraiment entrer dans un dialogue avec les spectateurs, je trouve que quand on se positionne trop fort et on ferme la porte à l'idée de l'autre, c'est-à-dire, moi, je peux être féministe, OK? Mais est-ce que je dois peut-être demander la question, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les femmes n'ont toujours pas l'égalité? Au lieu de dire, les femmes n'ont pas d'égalité, où est-ce que les gens vont écouter? C'est par rapport à la question. Et si je mets le mur devant les spectateurs avec ma position, je trouve que ça ferme des portes au dialogue.
Il n'y a pas de solution magique. Tu peux poser la question, je peux l'affirmer, puis toutes les deux, on a raison. Là. Alors là,
oui, c'est vrai.
Tu peux donner une recette, de dire qu'il ne faut pas le faire comme ça, mais les deux sont possibles.
C'est vrai. Et je dois dire qu'il y a des exemples aux États-Unis, par exemple, où les gens comme Susan Sarandon et Richard Dreyfuss, une gang de comédiens ont monté une pièce qui était contre la peine de mort. Ça s'appelait le Exonerated. Okay? Ils ont interviewé plusieurs gens qui étaient en prison, qui étaient condamnés à la mort. Puis c'était des gens qui ont été, juste aux dernières minutes, ils étaient exonérés, puis ils étaient, parce qu'il y avait de la preuve ADN. Puis là, ils ont monté cette pièce pour dire on ne veut pas la peine de la mort aux États-Unis. C'était vraiment excellent, cette pièce-là. Je l'ai vue à New York. Mais est-ce que les gens qui sont pour la peine de la mort, est-ce qu'ils vont aller voir la pièce?
Donc, ils ont prêché les convaincus.
C'est ça. Parce qu'on a besoin que les gens qui sont pas pour la peine de la mort vont voir la pièce. Mais si c'est présenté... Vous savez ce que je veux dire? C'est que si le but ultime, c'est de faire rassembler des gens qui sont... des opposés, des ennemis qui viennent de l'autre côté, il faut trouver une façon d'ouvrir. C'est juste ça. Mais ça, c'est... Il faut faire des choix. Et si ça, c'est le but de ce que vous faites, voilà. C'est ça que vous faites.
Oui. Merci. Alors, quelque chose que... Enfin, vous avez tourné autour d'une idée, c'est celle de la prise de conscience. Hein, ce que vous voulez faire, c'est prendre conscience aux spectateurs d'une certaine réalité, sans leur imposer des réponses, mais en posant des questions. Et évidemment, vous prenez des moyens artistiques pour y arriver. Okay, je pense qu'on peut, résumer ça comme ça. Hein. Tandis que chez 4D Art, est-ce qu'il y a cette prise de conscience que vous voulez communiquer aux spectateurs? Ou
oui,
vous limitez à une expérience intime et humaine et sensorielle?
Je pense que de toute façon, quand on parle d'émotion ou quand on parle de sujets comme la laideur et la beauté, l'apparence dans notre société qui est extrêmement présente, c'est sûr qu'on y réfléchit puis qu'on veut dire de quoi avec ça, c'est-à-dire s'exprimer avec ça. Nos spectacles ne sont pas uniquement pour l'esthétisme et la forme, au contraire, et je pense que ce serait de les prendre au premier degré, en fait, que d'y voir que de la forme. C'est évident qu'on ne montrera pas n'importe quelle pièce ou n'importe quel spectacle sur n'importe quel sujet. On s'interroge. Et en fait, Victor Hugo s'interroge toujours sur... Parce que nos spectacles, bon, ça prend 1 an, 2 ans à monter. On les tourne pendant plusieurs années. Enfin, pendant 5 ans de notre vie, on va parler de ce sujet, de la pièce. Et il faut que ce soit un sujet qui, pour nous, personnellement, va nous servir à devenir de meilleurs humains, va nous servir dans le parcours de nos vies personnelles. Alors, c'est sûr qu'on ne s'inscrit pas dans une démarche, disons, plus collective. On part d'abord de nous et de savoir qu'est-ce qui nous... Quand on a monté La Tempête de Shakespeare, cette idée de faire la paix avec tes ennemis, tes anciens ennemis, ça nous parlait énormément. La pièce La Belle et la Bête qui parle de est-ce qu'on peut encore aimer au-delà de l'apparence, dans une société complètement de plus en plus virtualisée, c'est quelque chose qui fait partie de nos vies à tous les jours. Alors c'est sûr que ce n'est pas des trucs qui s'apparentent aux sociopolitiques, mais en même temps, il y a quand même une réflexion dans tout ça. Et je pense que moi, je reviens au fait que l'art en soi, la prise de parole, qu'elle soit politique ou qu'elle soit personnelle ou émotive, est déjà suffisamment importante pour expliquer son existence. On n'a pas besoin d'avoir absolument une ramification sociopolitique à ce qu'on fait pour que ça ait une importance, je pense.
Oui, alors ce que tu dis me rappelle une phrase que j'ai notée quand Lorraine parlait au début. Elle a dit « Ma propre existence est un acte politique ». C'est-à-dire que finalement, tout est politique.
Oui.
C'est ça que tu veux dire.
Oui.
C'est un peu large.
Je trouve qu'exister aujourd'hui... Exister avec des valeurs, avec le désir d'être en harmonie avec la société dans laquelle on vit, d'être engagé, d'être un citoyen à part entière, de simplement voter, de simplement être là où les choses se passent, là où il y a des décisions à prendre, là où il y a des choix à faire. Cette implication-là comme être humain, c'est déjà en soi d'être exigeant politiquement par rapport à soi, parce que nier le fait qu'autour... Si la politique n'influence pas les structures, la manière dont notre société s'organise et que tu n'influences pas la politique, que ce soit par l'art, par ta vie, par ce que tu fais, par des actions concrètes d'engagement communautaire ou autre, tu passes à côté d'un grand sens de ta vie. Nous, on a choisi l'art pour le faire. Nous sommes des êtres privilégiés et nous sommes d'autant plus privilégiés de le faire dans une place comme le Québec en ce moment qui, somme toute, nous permet de faire à peu près tout ce qu'on veut. C'est-à-dire la censure ici, si tu compares à d'autres pays, puis on est apte à mesurer ce qui se passe en ce moment dans d'autres contrées plus lointaines qui ne peuvent même pas exprimer ce qu'ils pensent réellement, on peut se considérer comme étant assez chanceux de disposer des structures dont on dispose pour faire passer un message. Moi, j'ai pas peur du message. Je me sens absolument pas démagogue à l'idée de passer un message. En fait, passer un message, pour moi, c'est le partager. Pour moi, c'est le discuter. C'est entrer en dialogue avec quelqu'un sur un point de vue et qu'on se situe et qu'on fasse des choix. Je trouve pas qu'on est dans une société en ce moment et on n'a pas de bons exemples politiquement de gens aptes à faire des choix et à les assumer. Ou s'ils les font, c'est souvent au nom d'un bénéfice personnel où on a l'impression qu'ils dirigent le pays comme s'ils dirigeaient leur propre entreprise personnelle. C'est contre ça que j'ai le goût de m'élever, moi, en ce moment. C'est contre ça que j'ai le goût de faire entendre une parole. Et ma parole, elle est artistique. C'est ça que j'ai décidé de faire dans la vie. Mais ça n'empêche pas qu'au fond de ce que je suis profondément, je suis quelqu'un qui existe et pour qui exister est un acte politique. Oui, c'est un combat de tous les instants exister. Et je vais m'arrêter sur cette dernière phrase parce que je ne veux pas en faire un débat entre hommes et femmes, mais exister comme femme est un débat perpétuel aussi, complètement. Alors, voilà, et diriger un théâtre comme femme, c'en est un. On a beau dire, ah, le Québec, c'est formidable, ce ne sont que des femmes qui dirigent le théâtre. Ben, venez vous asseoir sur ma chaise et venez vous asseoir sur la chaise de quelques femmes qui dirigent le théâtre. Vous allez comprendre que ce n'est pas si simple et ce n'est pas si acquis. Alors, c'est des combats. Et si ça se traduit par des pièces sur une scène, ou si, je crois que c'est beaucoup plus facile de le faire dans des contextes où vous montez une pièce par année, où enfin le contexte est plus ciblé, comme production que des théâtres qui ont à assumer quand même des saisons, c'est une autre paire de manches. En fait, c'est une autre réalité, mais cette autre réalité, elle se doit d'être assumée par les gens qui sont en place et en espérant justement que nous ne sommes pas conformes à ce que les gens attendent de nous, mais que nous provoquons le changement de par les pièces que l'on présente. Rapidement, on parlait de Brecht tout à l'heure, j'ai dit que c'était un maître à penser. C'est vrai que les 3 ans que j'ai passés au conservatoire, je les ai placés sous l'angle des lectures nombreuses que j'ai faites des pièces de Brecht. Et pour en avoir monté quelques-unes, c'est assez étonnant. C'est un auteur dont on a peur aujourd'hui. Il est remonté, mais de manière très esthétique. Alors, on n'en analyse que la forme. Et on sait c'est quoi la distanciation, hein? On sait tous ce que c'est, on a tous appris ça à l'école, hein? Alors, je fais le lien entre Tête ronde, tête pointue que j'ai monté, qui est un texte éminemment politique avec une pensée marxiste-léniniste, avec celui qui dit oui, celui qui dit non, où on retrouve la pièce qui dit oui au pouvoir et qui dit non au pouvoir, et les deux ont raison, pour passer à Sainte-Jeanne des abattoirs, donc Jeanne d'Arc, qui dénonçait le pouvoir de l'employeur sur le syndicalisme, donc qui prônait la syndicalisation, et terminé cette année avec l'opéra de Katsu, qui est un opéra, mais sur l'injustice sociale et la non-équité du partage des richesses. Qu'est-ce qu'on a retenu de l'opéra de Katsu aujourd'hui? Et là, je dirais que les médias ont leur rôle à jouer également. On a retenu que la distanciation n'a pas été bien comprise par le metteur en scène. Est-ce qu'il y a eu un débat sur ce que la pièce disait? Est-ce qu'on a entendu parler de ce que Brecht dit aujourd'hui à notre société de bien nanti? Niette! Zéro! Alors, si on se sert de nos tribunes théâtrales pour alimenter le discours, d'accord, je lève la main. Si on s'en sert pour niveler le discours et en faire justement ce que vous dites si bien à la fin, est-ce que le théâtre a un discours citoyen? Est-ce que c'est payant d'un point de vue médiatique? Ce n'est pas payant d'un point de vue médiatique d'avoir un discours citoyen. Ce n'est absolument pas payant. En tout cas, du moins, ce n'est pas ça qu'on analyse. Alors, oui, restons sur nos positions, restons sur nos scènes et défendons le droit au merveilleux, le droit à l'expression, le droit à la provocation, le droit au rire. Bref, je parle du plaisir de tous les sens au théâtre. Tu n'es pas en train de nous dire « embêtez-vous, ennuyez-vous » parce qu'il y a du théâtre didactique qui vous est proposé. Tu es en train de dire « tripez avec moi parce que je vous provoque ». Alors, moi, c'est ce que j'ai le goût de faire, le goût de triper avec le monde et de provoquer. Et bon, chacun a son niveau de tolérance par rapport à la provocation. Il y en a qui aiment être provoqués plus, il y en a qui aiment être provoqués moins, il y en a qui n'aiment pas être provoqués, il y en a qui aiment être émus, il y en a qui aiment rire, il y en a qui aiment pleurer. Bon, alors là, comme artiste, tu fais un choix.
Merci, Lorraine.
Sylvain? Oui, j'ai envie de répondre.
J'ai hâte de réécouter.
Moi, j'aime bien quand tu dis « on bouscule des acquis ». Et en ce sens-là, c'est parce qu'il faut faire quand même l'exercice de définir c'est quoi du théâtre politique, sinon tout se vaut, tout est politique, et c'est difficile après ça de parler, parce qu'on pourrait tous dire que...
Tout est dans tout.
Tout est dans tout, mais je suis pas d'accord, parce que on est dans une société, justement, où il y a beaucoup de choses qui sont supportées, mais qui sont quand même insupportables. Et notre job, c'est de le dire. Fait que c'est beau quand tu dis ça, que c'est en dérangeant des acquis qu'on devient politique. Mais c'est pas vrai que tout le théâtre est politique. C'est pas tout le théâtre qui pose des questions. Moi, je vois du théâtre, des fois, qui répond à des questions, mais qui n'en pose pas. Ou qui répond à ses propres questions, mais qui donne tout de suite des réponses. Pas tant dans le fond, dans la façon dont c'est fait. Et c'est correct qu'on questionne la façon dont c'est fait, parce qu'il y a toute une histoire du théâtre derrière nous, hein, qui est là. Il y a une masse de compagnies, on a nos théâtres, et je pense que notre job, c'est de redéfinir la façon dont on le fait, et ça parle des fois plus que ce qu'on dit, c'est la façon dont on le fait, t'sais. Mais moi, je pense qu'il faut définir pour soi-même, il faut le définir peut-être même des fois ensemble, c'est quoi du théâtre politique. Moi, je pense, si je me mouille, je pense que c'est du théâtre qui dérange des acquis, qui réveille ce qui dort. Puis ça, ça peut être fait sur plusieurs sujets. Ça peut être fait au niveau socio-politique, mais ça peut être fait sur la délinquance, ça peut être fait sur la violence conjugale, ça peut être fait sur beaucoup, beaucoup de choses. Je ne veux pas rentrer dans des thèmes, puis dans le théâtre d'intervention, de sensibilisation. Si je reste dans le théâtre de création... Je ne dis pas que le théâtre d'intervention, ça n'en est pas. Là. Le théâtre de création qui propose une métaphore, c'est une métaphore qui te dérange. Parce que tu retournes chez vous et tu n'es pas capable de dormir pendant 3 jours. Ça, pour moi, c'est du théâtre politique. La politique, pour moi, c'est de définir ce qu'on est ensemble. Donc, d'essayer de le faire, de faire l'exercice difficile de le faire. Mais au théâtre, je pense qu'il faut... Moi, je pense qu'il faut déranger pour... pas déranger pour déranger, là, mais déranger des acquis. Ce qui dort, ce qui berne en nous. Et on vit dans une société où est-ce que... qui est en totale hibernation. Sur plusieurs types de générations, je trouve qu'on dort sur certaines questions. Puis même quand quelqu'un ose parler plus fort ou déranger, il est récupéré très, très vite. Pourquoi? Parce que ça dérange trop. Ça dérange pas la masse, ça dérange l'individu, donc ça va être récupéré de toutes parts pour que ça retourne en hibernation et dans le confort le plus total. Notre job, c'est nous autres de déranger le confort. Donc, c'est pas vrai, je pense, que tout le théâtre se vaut au niveau du politique. Ça, je suis pas capable de...
Dire ça parce que... vous répétez toujours théâtre politique. Est-ce que vous faites une distinction entre ça et théâtre citoyen? Si pour vous, c'est pareil.
Je ne sais pas c'est quoi du théâtre citoyen.
Vous ne savez pas ce que c'est, théâtre citoyen. OK.
C'est peut-être inventé par la revue. Là. Je ne sais, sais pas c'est quoi.
Étienne Bordage qui a pensé à ce sujet de dossier de théâtre dans la cité. Peut-être
est-ce que ça veut dire un théâtre qui rappelle aux gens qu'ils sont des citoyens? Je ne sais pas, que quand ils sont dans l'expérience théâtrale, ils sont, c'est ça, rappelés qu'il y a quelque chose à écouter des histoires, mais qui est un citoyen, que chaque journée, ils font des choix qui ont un impact.
Oui. Tu parles de politique en ce moment. Tu définis
parce que nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous des citoyens. Mais pour certains artistes, ça, c'est du domaine privé. Mm-hmm. Tandis que quand on parle de théâtre citoyen, c'est quand cette idée vient sur la scène.
Okay.
Ben, oui, c'est quelque chose que je n'ai pas compris, le privé, ça, c'était dans la question.
C'est ça.
Que le militantisme
n'appartient
pas à l'esprit du privé.
Autrement dit, il y a des gens qui vont dire, moi, comme citoyen, je vais voter, je vais élire des politiques, etc. Mais lorsque je fais du théâtre, je suis un artiste.
OK. OK. Ben, d'abord, on sait tous que voter, c'est comme le minimum de l'acte de la démocratie et d'être citoyen. Je trouve que c'est notre capacité de partager un dialogue public. Ça, c'est la politique ou d'être citoyen. Ça peut pas être privé. C'est inégal cette phrase. Il faut que ça soit. Il faut qu'on pense à. Oui, on est des gens privés, on a des histoires privées. Mais quand on parle de la politique, si on parle d'être citoyen, ça c'est un acte public. Puis si c'est un théâtre qui est une théâtre citoyenne, c'est notre vie publique. Puis c'est pas quelque chose qu'on peut nier. On ne peut pas dire, ben moi, je ne suis pas d'accord avec ce que les libéraux font, mais je vais juste rester chez moi et me plaindre. Ça, c'est comme nier l'idée que vous faites partie d'une démocratie et qu'il faut partager un dialogue. Pas nécessairement en théâtre, peut-être vous ne pensez pas, mais à un moment donné, il faut faire face à ça. Sinon, les choses vont... Il va y avoir des crises, comme on voit maintenant, aujourd'hui. Les ponts vont tomber. le système d'éducation va être en crise, on va être endetté, on va attendre à ce que les autres gens, je sais pas.
Et vous pensez que par le théâtre, en parlant de l'effondrement du viaduc de la Concorde ou d'autres sujets comme ça, vous pouvez contribuer à régler des problèmes ou à faire prendre conscience aux gens qu'il y a des problèmes?
Une personne, une pièce de théâtre, une histoire peut jamais régler un problème et je crois qu'il n'y a pas une solution comme directe à ça. C'est une métaphore, un effondrement d'un pont, un pont qui est un symbole d'un espace entre les gens, un pont qui s'appelle Concorde, qui veut dire harmonie, qui s'est effondré 6 ans après un autre pont qui s'appelait du souvenir que tout le monde a oublié. C'est la poésie totale.
La poésie dans la cité.
Et oui, dans la cité. Et puis, de devenir citoyen, c'est d'apercevoir la beauté de la cité et la beauté du partage des histoires, de voir la métaphore qui nous entoure. Écoute, la démocratie, c'était un expériment radical dans l'ancienne Grèce et aux États-Unis. C'était et en France et en Angleterre. C'était des gens qui voulaient créer une cité. C'est l'acte de création la plus belle. Puis voilà, de regarder cette cité, de raconter des histoires qui se passent dans cette cité, ça donne la sens aux gens pour qu'ils puissent s'engager et créer une démocratie autour d'eux. C'est la création et la politique, ça va ensemble. La démocratie était née comme un acte de création des gens qui disaient « on ne va pas juste donner le pouvoir aux gens, on a vu ça, on a vu la dictature ». Non, on va s'impliquer. Et ce n'est pas en regardant la télé 24 heures qu'on peut faire ça. Il faut sortir de chez nous, il faut sortir de cette idée qu'on est juste des individuels, puis il faut parler avec des gens, il faut demander des questions, il faut continuellement récréer la démocratie. Alors je crois que la métaphore que le théâtre politique donne aux gens, c'est cette métaphore-là. Vous êtes en train de créer votre propre cité si vous êtes un citoyen. Si vous ne le faites pas, ça va être d'autres gens, comme Jean Charest, qui va le faire pour toi. Bonne chance avec ça.
Merci. Il y a sûrement dans la salle des gens qui voudraient intervenir maintenant par des commentaires ou des questions. Je vous rappelle que nous avons deux micros et il faut obligatoirement parler dans les micros pour qu'il reste quelque chose de vos interventions.
Bon, il ne semble pas quand j'ai fait une grosse bande.
Non, je n'ai pas. Ah, oui, il y a quelqu'un. Votre nom ?
Philippe Ducrot.
Oui.
Moi, je trouve ça étonnant parce que sur une discussion sur la politique, le théâtre citoyen et tout ça, on en arrive finalement à devoir définir qu'est-ce que c'est le théâtre politique, qu'est-ce que c'est le théâtre d'engagement. Pour moi, c'est très éloquent de où on en est rendu avec cette question-là de savoir est-ce que c'est réellement une prise de parole ou un geste esthétique ou est-ce que c'est surtout un, surtout l'autre. Je pense que la réflexion est d'autant plus pertinente et le surtout est d'autant plus important parce qu'on se retrouve dans un milieu culturel où, à quelque part, tout se vaut au niveau de cet engagement-là. Alors, moi, je trouve que la détérioration de ce terme-là et de cette réflexion-là est très éloquente là-dedans. Je tenais à dire ça.
Il y a une usure des mots hein, qu'on avait déjà pressenti il y a 10 ans quand on avait fait une première table ronde un peu sur le même sujet. Et c'est ce que Jean-Pierre Onfarbe disait, par exemple. Il faut toujours trouver de nouveaux mots pour nommer les choses.
De nouvelles formes.
Parce que comme je disais, théâtre engagé du temps de Camus et de Sartre, on savait ce que ça voulait dire.
Ouais.
Et puis ensuite, bon, ben, engagé à quoi aujourd'hui ? On peut se poser la question parce qu'on ne sait plus. Les termes ont été oubliés. Oui, monsieur.
Louis-Dominique Lavigne,
oui.
Co-directeur artistique du Théâtre de quartier. J'étais là il y a 10 ans.
J'étais là il y a 10 ans.
Donc, moi, c'est parce que c'est une question qui me fait beaucoup réfléchir. C'est pour ça que je suis venu. Alors, en vous écoutant, j'ai pris quelques notes de réflexion sur les thèmes que vous abordez. Parce que moi, j'ai pratiqué beaucoup ce théâtre engagé dans son radicalisme le plus extrême. Là. Je faisais partie des gangs dont Lorraine parlait au début. Ça m'a beaucoup ému quand Lorraine en a parlé. Mais bon, alors, ce que je voulais dire, c'est que moi, je trouve que... j'avais déjà dit il y a 10 ans, mais les autres affaires, c'est nouveau. Là. Mais que moi, par exemple, le théâtre en lui-même, pour moi, est un art engagé. C'est-à-dire que c'est un peu ce qui a changé aussi par rapport aux années 70. Où il y avait beaucoup de théâtres et on peut voir plus des différences. Alors que moi, je trouve que tout le théâtre est un art engagé. Par exemple, à la télévision, à Internet, aller au cocooning, aux gens qui restent chez eux, de réussir à faire sortir le monde de chez eux puis de les ramasser dans des salles où il y a une parole qui se dit, peu importe les points de vue, je trouve qu'il se passe quelque chose d'engagé là-dedans. en 2011. Ça, c'est une première réflexion. Et c'est étonnant aussi, même par rapport aux œuvres, comment ça bouge. Par exemple, dans les années 70, un auteur comme Feydeau, on disait que c'est un auteur vide, désengagé, gratuit, qui ne faisait que du divertissement. Maintenant, Alain Françon, par exemple, en France, monte ça, puis il dit que c'est un auteur qui reflète un des auteurs qui a fait le mieux la société de son époque. Alors là, il y a des choses qui ont changé. Et aussi, une chose qui me fait bien réfléchir, parce que moi, depuis que le théâtre engagé est partout, j'y vais partout. Alors, des fois, je me retrouve chez les jeunes auteurs, je trouve que des fois, ils ont le message ou ce qu'ils ont à dire m'apparaît très flou ou très peu engagé. Puis, à un moment donné, des fois, je retrouve des propos très politiques. Par exemple, La Cerisée est un spectacle qui traite de la spéculation urbaine. Alors que je vois très peu ces sujets-là, par exemple, dans les créations des jeunes auteurs. Alors, tu sais, ça se bouge bien, le Brecht au TNM, etc. Donc, on voit une mutation des thèmes, si on parle justement des thèmes dans cet art engagé qui se promène un peu partout dans les lieux. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a oublié aussi que dans le théâtre engagé, il y a aussi ce qu'on appelle, quand tu parlais du parmi nous, le théâtre d'intervention. Alors, c'est encore plus pointu par rapport à la pratique du théâtre politique qui existe encore maintenant. Moi, j'ai une petite anecdote à un moment donné à vous raconter, parce que moi, j'ai vécu une sorte de crise de l'engagement au niveau du théâtre. Par exemple, à un moment donné, je fais beaucoup de théâtre jeune public, je fais partie d'une compagnie de jeune public, on a fait beaucoup de théâtre, on en fait encore, engagé. Et là, on jouait une pièce en tournée sur le thème du racisme. Alors, je joue la pièce, moi, je suis comédien, d'un auteur canadien-anglais, un excellent texte, qui s'appelle Le Petit Néo, et là, à la fin... Le directeur d'école, il dit, bon, les enfants, c'est très important là, d'avoir bien retenu le message du spectacle. Est-ce que vous avez bien compris le message? Mais là, moi, j'étais en arrière en coulisses, j'ai dit, non, je viens de jouer. Il y a un auteur qui a écrit cette pièce-là, il y a un metteur en scène, il y a une scéno, on vient de faire du théâtre et on ne parle que du message. Alors là, moi, je me suis posé des questions par rapport au théâtre engagé. Je me suis dit qu'il fallait que je remette le théâtre en quelque part. Alors, ça, c'est... Donc, ça m'amène à... Moi, j'ai vécu, en plus de ça, c'est un exemple de tournée, et j'ai déjà été confronté, moi, en tant que dramaturge, entre l'opposition entre l'engagement et la dramaturgie. Par exemple, on montait un spectacle, puis il fallait absolument passer la propriété privée comme thème dans un spectacle pour enfants, très marxiste. Et là, ma dramaturgie n'allait pas vers là du tout. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors là, c'est le message qui a pris le dessus, ça s'appelait un jeu d'enfant. Et là, moi, j'étais l'observateur et le dramaturge, puis là, à toute fois que ça passait dans ce bout-là, j'avais le goût de rentrer en dessous de ma chaise, je me dis, il n'y a plus de théâtre. Tout ce que je vois, c'est un message. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, depuis ce temps-là, je me suis dit que le théâtre doit gagner. Et je trouve que, conjecturellement parlant, le théâtre doit gagner, parce qu'il y a une autre chose que je vais vous rappeler aussi, c'est qu'au moment des années 70-80, au moment où le théâtre très politique, très engagé était très fort, il y avait des projets idéologiques qui marchaient. Il y avait des utopies collectives qui fonctionnaient, auxquelles on croyait. Là, actuellement, on est plus dans une sorte de crise des idéologies, une crise des projets de société. Et c'est là où, à mon avis, le théâtre est encore plus important en tant que moyen dans son engagement. Ce que je veux dire, c'est que dans le sens que, actuellement, quand je bâtis une dramaturgie engagée, par exemple, je vais m'inspirer de thèmes, bien, au lieu d'essayer de faire passer, par exemple, la propriété privée ou au-dessus, je vais suivre ma dramaturgie. Et là, ma dramaturgie va me mener vers des pistes auxquelles je ne m'attends pas, thématiquement. Et c'est là où on voit l'intuition du poète. Et je crois que dans nos années, le poète ou le dramaturge ou l'artiste a des intuitions sociales que peu de sociologues ont. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est comme si l'art portait en lui un engagement qui n'est pas encore défini. Voilà ce que je voulais dire.
Bien, merci, Louis-Dominique.
Mais tu sais, j'aurais pu te rappeler du travail de Philippe Ducrot qui, dernièrement, a créé un spectacle très engagé.
L'affiche.
On pourrait dire que ça, c'est un théâtre très, très engagé. Alors. Ben oui, complètement. Complètement. Et ça aussi, c'est...
Il faut venir au micro si vous voulez.
Non, je vais parler du parmi nous, j'aurais pu parler de ton travail aussi. Là.
Vous voulez intervenir aussi? Oui, allez-y. Alors, votre nom?
Sarah Dion. J'étudie à l'UQAM.
Votre nom?
Sarah Dion. Okay. J'étudie à l'UQAM en théâtre, je suis en première année, donc c'est en toute naïveté que je me pointe au micro. Je vais dire quelque chose d'un peu désagréable, mais c'est vraiment naïf et humble. Là, c'est une question que je me pose réellement. On a appris que, dans un cours, mon prof serait pas fier, j'ai déjà oublié qu'il l'a dit, que le message est un massage au théâtre. Donc, ça m'a parlé lorsque M. Lemieux parlait de massage plutôt que de message. Puis il nous a parlé aussi du théâtre qui parle d'intellect à intellect, comme à l'université. C'est un intellect qui nous dit de façon concrète, qui s'adresse à notre intellect. Je me suis demandé si le théâtre engagé, peu importe que ce soit un message, massage ou d'intellect à intellect, de façon très concrète, disons si on va voir Sexy Béton, on se fait dire quelque chose d'assez concret. Puis comme vous aviez dit, quand vous présentez par exemple un miroir, bon, c'est quelque chose de beaucoup plus direct que d'aller voir, disons, La Belle et la Bête, après ça de se questionner. Mais moi, je me demande, est-ce que quand on parle de théâtre engagé, il faudrait espérer que le spectateur, j'ai pas l'expression en français, walk the talk. Ça veut dire que, et après ça, oh, c'était terrible, La Belle et la Bête, je suis allée voir ça, puis ça nous fait réfléchir à notre société, l'image, l'amour, le décolleté. Est-ce que le comportement va venir avec le... Je me demande, est-ce que le comportement suit après la parole, après tout le côté intellectuel, que ce soit intellectuel ou sensoriel, est-ce que vous avez, dans votre expérience théâtrale, remarqué que les comportements changent? Est-ce que le théâtre va changer de comportement?
Oui, vous avez employé l'expression que le... Que
walk,
le
walk the talk.
Walk the talk.
Walk the talk. Ça
veut dire... Oui. La marche, le discours, quelque chose.
Est-ce que dans tes actions, tu fais ce que tu...
Est-ce qu'on fait quelque chose? Est-ce qu'on ne parle pas juste de la chose, mais on va faire quelque chose? Et ça, c'est si on parle de transformation...
Oui.
De provoquer une acte.
Oui, je me le demande.
OK. Est-ce que je peux répondre concrètement à ça? J'ai un exemple très fort récemment où une pièce qu'on a créée ensemble avec les spectateurs, d'une certaine façon, a provoqué une acte. C'était les parents d'un homme de 28 ans qui est mort dans l'effondrement du viaduc de la Concorde avec sa blonde qui était enceinte. Puis c'était leur seul fils, OK? Alors, eux autres, ils ont perdu tous. Ils ont perdu leur famille, leur future famille. Puis ils se sont devenus des personnages dans notre pièce. Puis ils sont venus voir la pièce. Puis après, ils ont dit, il faut qu'on fasse quelque chose. On a voulu rien faire parce qu'on a tout perdu. Puis on a pensé qu'il n'y a rien à faire. Mais il faut qu'on fasse quelque chose pour que ça ne se passe pas dans l'avenir à d'autres personnes. Puis, la semaine dernière, ils ont réussi, après des mois de recherche et qu'est-ce qu'on peut faire, de lancer une pétition sur le site de l'Assemblée nationale. Alors, ça a été accepté. Il y avait leur député à Terrebonne a accepté leur pétition, a présenté à l'Assemblée nationale pour demander que s'il y a un autre effondrement, qu'on ne le classifie pas comme un accident de voiture. Puis qu'on donne presque rien de compensation aux gens, dont les victimes. OK. Ça, c'était un acte où c'était pas la pièce qui leur disait. Il n'y avait pas un massage dans la pièce. OK. C'était des anecdotes, dont leur anecdote. OK. Puis après avoir écouté toutes les anecdotes des gens qui disaient des choses même contre eux, ils ont dit, on n'est pas tout seul. Puis si on fait quelque chose... Il va y avoir des gens dans notre cité qui vont écouter. Puis avant, ils ne pensaient pas que c'était possible. Parce qu'il y avait un tel silence après cet effondrement. Oui, on a eu une commission, blablabla. Il y avait vraiment un silence face à l'expérience des victimes. Puis là, ils avaient eu l'espoir. Okay? Je dois dire que c'est la seule exemple que je peux vous donner après 10 ans d'avoir fait ces pièces-là. Okay? Alors, c'est très rare, mais je crois que oui, ça se pourrait, mais ça demande une relation entre la pièce et les spectateurs qui est très rare à trouver. Puis, je ne crois pas que c'est une solution magique non plus, que ces gens-là ont lancé une pétition, mais c'est une initiative qui est symbolique du fait qu'on peut avoir un pouvoir citoyen et que la démocratie veut dire le pouvoir du peuple. Et je crois que leur exemple peut inspirer d'autres gens. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, parce que c'était plus large, peut-être, que quelque chose comme ça, Mais je trouve que c'est vrai que des fois, on dit dans le théâtre, « Mon Dieu, on transforme le monde », mais il y a seulement comme 2000 gens qui ont vu ma pièce. Ce n'est pas vraiment un gros impact, ça. Mais des fois, il peut y avoir des moments comme ça. Puis, pas juste ça, il y a d'autres implications qui sont juste, « Wow, cette histoire m'a touchée ». Ça peut avoir un ripple effect qui a beaucoup d'impact aussi.
Je vais me permettre, comme il a été fait mention de La Belle et la Bête, je ne crois pas que La Belle et la Bête poursuit les mêmes buts que Sexy Béton. Hein? On s'entend.
Oui, votre nom?
Dominique Daou. Je suis comédienne. J'ai joué l'année passée dans une pièce très, très politique, très engagée politiquement, qui s'appelle « Sept enfants juifs ». Il y avait eu déjà une lecture à Montréal. Nous, on a vraiment fait la pièce avec une mise en scène... assez élaboré et j'avais plein de réflexions en écoutant vos conversations. Est-ce que le théâtre politique est payant? Je veux dire, payant monétairement, non.
Est-ce que le théâtre est payant?
Exactement. Déjà, le théâtre, c'est assez... Je veux dire, on en vit difficilement, mais est-ce que c'est payant? Non. Mais émotivement, c'est payant parce qu'on a l'impression... Et je sais comme... la chose que mademoiselle disait tantôt, walk the talk, c'est que nous, il y a des gens qui sont venus voir la pièce. Bon, je ne sais pas si les gens connaissent cette pièce ou pas. C'est une femme de Grande-Bretagne qui écrit cette pièce et ça parle de la relation entre les Palestiniens et les Juifs et ça parle beaucoup de l'histoire de tout ça. Et nous, il y a des gens qui sont venus voir la pièce qui n'étaient pas au courant ou qui lisaient dans les journaux, mais qui n'avaient pas une expérience vivante de ce qui se passait, qu'il n'y avait pas de référence par rapport à eux. Et je veux dire, il y a des gens qui, quand on finissait la pièce, qui pleuraient. Et nous, on faisait toujours une réflexion après une discussion avec les acteurs, les gens, ce que ça leur faisait, tout ça. Et je trouve aussi que comme comédien, c'est pas toujours facile de faire du théâtre engagé parce qu'on ne peut pas faire autrement que heurter certaines personnes. Je veux dire, moi, j'ai beaucoup d'amis juifs à Boston, à New York, ici. J'ai pas beaucoup d'amis palestiniens parce que j'en connais pas beaucoup, mais je veux dire, ça n'a pas été si facile pour moi d'accepter de jouer dans cette pièce où je devais m'affirmer en tant qu'artiste, affirmer mes positions. Et c'est un sujet très difficile parce que, je veux dire, on sait que le peuple juif a énormément souffert. Je trouve que c'est comme un peu devenu la victime qui devient le bourreau, qui à son tour fait souffrir ses voisins. Et c'est très délicat de toucher à ça sans blesser des gens qu'on aime. Mais j'ai voulu le faire parce que je trouvais que c'était important en tant qu'individu, en tant qu'artiste. Quelquefois, je veux dire, comme comédien, on va faire des annonces pour, je sais pas, McDonald's. Bon, tu peux refuser de la faire ou quoi, mais on a tout fait dans nos vies de comédiennes, des affaires, tu sais, que bon, pour bread and butter, là, pour manger. Mais je trouve que c'est quand même important, de temps en temps, de faire des choses qui sont peut-être plus difficiles et de les assumer. Parce que comme artiste, en fait, la plupart des gens qui sont artistes, je sais qu'il y a de l'art qui est vraiment de droite aussi, qu'on peut aimer pour un certain esthétisme, mais qui ne vont pas épouser nos vues politiques. Mais je trouve que c'est important de s'affirmer en tant qu'artiste, comme être politisé aussi, pas seulement comme être esthétique.
Merci. Et vous avez joué ça où?
On a joué dans plusieurs endroits. On a joué à l'espace du Théâtre sans fil. Et on a joué aussi... comment ça s'appelait, Michel? T'étais là, l'espace, là? Sur Sherbrooke, l'espace de danse, qui est le nouvel espace de danse au coin de Sherbrooke.
Jean-Pierre Perrault.
Oui, c'était magnifique de jouer là. Et là, il y a même une possibilité. Notre jeune réalisateur, qui est metteur en scène, qui est... Suisse, mais qui vit ici. On a peut-être une possibilité d'aller jouer la pièce en Suisse. Mmh. Et par contre, on veut faire une soirée complète. Donc, ce n'est pas une très longue pièce. Avec la mise en scène et tout, ça durait à peine une demi-heure. Et on veut faire comme une, avec une autre pièce conjointe pour pouvoir essayer de la présenter. On a essayé d'approcher les écoles, les universités. Il y a des gens qui étaient ouverts, mais c'est très, très difficile d'amener, comme dans une école, un sujet qui est si politique, c'est trop...
Oui, vous demanderez conseil à Louis-Dominique Lavigne, il vous dira comment faire pour approcher les écoles avec des pièces explosives. Merci.
Merci, au revoir.
Merci beaucoup. Geneviève Billette, auteure dramatique.
Oui, bonjour, j'ai une question, mais je vais en profiter parce que, Annabelle, est-ce que tu écris également? Est-ce que tu écris ou tu...
Mais des fois, des gens disent que j'écris pas parce que j'écris pas les paroles que je mets sur scène sans les paroles que les gens m'ont dit en entrevue. Alors, mais est-ce qu'on dit que les gens qui prennent des photos sont des artistes, moins que les peintres? Je sais pas. Mais je fais un montage des mots.
D'accord, mais c'est pas le but de ma question.
Je n'écris pas de la fiction, si ça c'est votre question.
Oui, c'était juste par curiosité, mais je savais que tu étais metteur en scène, voilà.
OK, moi, non, j'écris les pièces de porte-parole. Ben, pas tous, parce que Philippe a fait une mise en scène de quelqu'un d'autre qui était un texte commandé par une cinéaste documentaire, mais oui, j'écris.
Bon, d'accord, c'était pas ma question. Excusez-moi. OK. Est-ce que je veux profiter de la présence, donc, de quatre metteurs en scène. C'est pour ça que je voulais pas passer sur l'auteur. Si t'étais également auteur, c'est juste ça que je voulais m'assurer.
Ah, excuse-moi.
Oui, exactement. C'est pas grave. En fait, peu importe l'étiquette, que ce soit politique ou engagée, j'avoue, moi aussi, je me sens très, très mal à l'aise avec certaines de ces étiquettes-là. Mais ce que j'aime, en fait, c'est la secousse du théâtre, c'est l'ébranlement du théâtre, l'onde de choc possible qu'il va créer. Donc, pour moi, quand j'écris, j'ai l'impression que j'écris toujours contre quelque chose. J'essaie de pas nommer l'ennemi, justement, pour pas que ça soit un message ou une flèche trop acérée, ou que ça soit, comment je pourrais dire... Ben, justement, pas métaphorique, vraiment, à lire, comment je pourrais dire, une seule couche de lecture. Et donc, présentement, je trouve qu'on est dans une société saturée. Saturée d'images et saturée de confidences. C'est-à-dire les téléréalités, c'est des confidences, les blogs, c'est des confidences. Je veux dire, tout est... La confidence est un spectacle, faire des muffins est un spectacle. Donc, la banalité est un spectacle et tout le monde participe à ça. Donc, moi, mon souci pour écrire contre ça, quand j'écris, c'est de tout faire pour ne pas ajouter au bruit ambiant. Sinon, je suis le flot. Donc, ma question au metteur en scène. On vit dans une société saturée d'images hyper sophistiquées. Partout. Comment vous vous assurez, quand vous maniez les images, de ne pas justement être dans la variété tout simplement, ou de vraiment proposer une vision nouvelle du monde et non pas une hypnose publicitaire? Excusez-moi, j'ai la grosse sèche. Est-ce que c'est clair, non?
Oui, oui, c'est une très bonne question. Aux quatre metteurs en scène.
J'aimerais commencer par répondre. En fait, on est dans une société saturée d'images, mais en fait, on est dans une société saturée d'images dans le temps, très, très rapide. On est bombardé. On marche sur la rue, on regarde la télé, on est constamment. Et le théâtre est un lieu où on peut... je vais paraphraser Pierre-Yves Lemieux, arrêter le temps, où on peut tout d'un coup peut-être travailler avec des images, mais dans un temps beaucoup plus lent. Donc là, on est dans un temps d'absorption. Et de toute façon, moi, j'ai des yeux, alors c'est sûr que j'aurais de la difficulté à ne pas utiliser mes yeux et ne pas avoir le plaisir de regarder des images. J'adore être à la campagne. La campagne, ça bouge pas beaucoup, hein, surtout quand il y a juste un petit peu de vent dans les arbres. Pourtant, c'est très visuel. Ce sont des images, mais des images lentes et des images de contemplation. Au cinéma, c'est très difficile d'aller vers la contemplation. Certains cinéastes vont vers là, mais dans une grande majorité du cinéma qui se fait, c'est très difficile. À la télévision, impossible. Vous avez simplement à ouvrir votre télévision à n'importe quel poste, le tourner vers le mur et pas regarder, juste regarder la lumière qui flash dans la pièce. C'est frénétique. Je pense que le théâtre ne doit pas nécessairement avoir des images ou ne pas en avoir. Le théâtre doit s'adresser au sens et autant aux émotions qu'à l'intellect. Je pense qu'il faut que ça soit une expérience globale, mais faut pas non plus faire du théâtre aveugle parce qu'il y a plein d'images partout. Je pense qu'il faut utiliser les images judicieusement et se poser la question pourquoi cette image. Et justement, quand on reste sur une image pendant, par exemple, toute une scène, pendant 5-10 minutes, ben c'est plus facile de se poser la question pourquoi cette image, et c'est plus facile pour le spectateur de s'imprégner de cette image, et aussi d'entendre un texte, d'entendre une musique, de voir des mouvements s'insérer dans cette image-là sans que tout ça devienne qu'une frénésie complètement superficielle.
Je peux compléter. Souvent, quand tu parles du monde ambiant, tout ça, qu'on est inondé d'images, souvent les images, on nous les donne pour ce qu'elles sont. Puis je pense au théâtre, il faut les utiliser pour ce qu'elles veulent dire. Puis c'est là qu'on a une job, tu sais. Puis là, sans rentrer dans la théorie, dans Les Mutants, j'en utilisais beaucoup pour ce qu'elle voulait dire dans la succession d'images qu'on voyait. Donc, tu avais à te faire ton chemin, tu sais. Mais souvent, en publicité, même les émissions de radio, où est-ce que les gens ils lancent des opinions, souvent, on prend les choses avec beaucoup de, ça se dit-tu, étroitesse, où on nous donne une image pour ce qu'elle est, je donne une opinion pour ce qu'elle règle pour moi, là, maintenant. Mais souvent, on a peur de, justement, comme tu dis, de prendre le temps puis de lancer juste un caillou dans le lac puis travailler sur les ondes. Nous autres, on travaille sur les ondes. Souvent, à la télé, t'as le caillou puis on t'essaie de te le vendre, tu sais. 15 fois dans la même émission, tu sais. Nous, il faut travailler sur le signifiant des images et non juste sur l'image elle-même, tu sais. Ça se rapproche à la poésie, finalement, ou le bon cinéma, excuse-moi, le bon documentaire, là. Souvent, t'as pas l'impression d'être manipulé avec les images, souvent. Il faut que tu te fasses une histoire dans la succession d'images. T'sais. Cinéma de documentaire est fascinant pour ça, pour répondre à ta question.
Je veux juste ajouter quelque chose. En fait, un acteur sur scène, quand on est en répétition, et on n'a rien, on n'a que les acteurs, on n'a pas d'image, pas de décor, pas de costume. Un acteur, il y a quelque chose d'extrêmement visuellement très fort là-dedans, et que l'acteur bouge sans arrêt sur le bout des pieds, comme souvent on voit malheureusement. Je trouve que le théâtre n'est pas groundé. Le théâtre est beaucoup sur la pointe des pieds, puis on gesticule, comme je fais en ce moment, et on fait beaucoup de gestes parasites, en fait. Et quand tout d'un coup, on essaie de calmer ça, puis de dire, non, on ground les choses. Si on fait un geste, c'est parce qu'il a une raison d'être et parce qu'il va porter quelque chose. Tout d'un coup, on est plus comme au musée, hein, quelque part, où tu peux traverser un musée très rapidement. En 15 minutes, tu peux traverser un musée. Vite, 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 vite. Tu vas avoir plein d'images, ou tu peux passer une journée complète dans un musée à vraiment t'imprégner de chacune. Mais les corps dans l'espace, je pense que tu vas être d'accord, vous allez tous être d'accord, les corps dans l'espace, il y a quelque chose qui parle au-delà des mots et au-delà du message, au-delà du massage, au-delà de tout, les corps qui évoluent dans l'espace. Et un spectateur qui prend tout d'un coup le temps de regarder ça. J'avais une conversation avec un réalisateur de films qui fait des films assez commerciaux, très bons, mais très, 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 beaucoup, beaucoup de succès, beaucoup d'entrées au box-office. Et on était avec un chorégraphe, et le chorégraphe et moi, on disait, la scène, c'est un lieu où on peut cultiver la lenteur. Et le réalisateur était horrifié. Il disait, mais ça n'a pas d'allure, il faut que ça se passe vite, vite, efficacité, etc. Tandis qu'au théâtre, c'est un des derniers lieux où tout d'un coup, on peut prendre le temps.
C'est drôle, parce que vous parlez tous les deux donc d'installer la lenteur au théâtre, alors que moi, à part les pièces de 9 heures de Robert Lepage, ce que je vois de plus en plus, c'est des pièces qui durent 1 heure, 1 heure et quart.
Oui,
1 heure 5, 1 heure 10, pas plus. Hein?
Oui, il y a une tendance. Quand on présente des œuvres de 2 heures et 30, exemple l'Opéra de Katsu, Les gens disent 12h30. Oh, mais alors, il y a un entr'acte.
Mais pas seulement.
Oui, il y a un entr'acte. Le propos se prête aux 2h30.
Mais c'est le cas pas seulement au TNM, mais ailleurs.
Dans je ne me sentais pas visé nécessairement. Je non, le vois
mais dans, dans des petites salles où il n'y a pas d'entr'acte d'habitude, mais les pièces raccourcissent.
Ouais.
Mais je pense pas que c'est une question de minutage, la lenteur. Là. Je pense que c'est une question de prendre le temps de faire les choses. Puis c'est sûr que dans une société qui est à la fraction de seconde, de prendre 5 minutes pour faire quelque chose qui normalement pourrait prendre, qui serait un plan de 5 secondes au cinéma ou de 2 secondes à la télévision, juste le fait par contraste, en fait. Et moi, personnellement, comme spectateur, après 90 minutes, physiquement, j'ai besoin d'un entr'acte. Sinon... Et oui, il y a des expériences de 5 heures qui sont magnifiques, mais en même temps, je pense que au bout d'un certain temps, si tu fais quelque chose qui est dense, qui a une certaine densité, le spectateur a une fatigue physique et intellectuelle à regarder quelque chose, puis... Ben, si tu n'as pas fait ton point dans les 90 minutes, les 2 heures, fais 2 pièces sur le même sujet. Là. Fais pas une seule pièce.
Écoutez, on va terminer, on va conclure, hein, parce qu'on arrive à la fin de cette table ronde. J'ai eu l'impression pendant un moment que Sylvain et Michel s'entendaient tellement bien que je les voyais préparer un spectacle ensemble, parce qu'ils parlaient tous les deux de l'importance du corps, des images, tous les deux ont employé ce vocabulaire. Est-ce qu'Annabelle, vous vous retrouveriez là-dedans? Est-ce que vous vous associeriez à une telle aventure?
Excusez-moi, j'ai compris.
C'est-à-dire, est-ce que vous donneriez, vous aussi, une grande importance aux images, au corps, à la lenteur, qui sont tous, des points de vue esthétiques, plutôt qu'à la parole?
C'est certain. Écoute... je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui ont vu des pièces de porte-parole. On ne laisse jamais l'esthétique en dehors de notre théâtre. Il y a toujours le décor est toujours très important, les moments de silence. En fait, ce que je voulais dire à vous, la question de comment est-ce que je peux ajouter ma voix avec tout ce bombardement-là, ben, c'est avec le contraste, comme Michel a dit, qu'il faut qu'on... saisit ce bombardement, ce bruit-là, puis à côté, dans la même pièce, il faut voir le silence à côté et comment c'est important. Alors, écoutez, on n'avait pas vraiment le temps de expliquer notre forme en détail, mais les mots, dans le théâtre, on commence normalement dans des pièces qui sont écrites avec les paroles, mais les paroles donnent les images. On commence avec ces mots-là comme des indices, puis après ça, on sort, puis on trouve des corps, des images qui, d'une certaine façon, fait vivre ces mots-là. Puis je crois que ça, c'est dans le théâtre partout. Si on fait La Belle et la Bête ou Sexy Béton, c'est à faire vivre une expérience aux spectateurs. Puis
nous on a
certainement,
en fait, on a commencé par les images,
oui,
suscitées, et on est arrivé aux mots.
Oui.
Et je pense, en fait, moi, j'ai toujours, ça m'hérisse le poil un peu quand on parle du théâtre comme, en fait, c'est qu'il faut se souvenir, le théâtre grec ancien était une célébration à Dionysos, une grande fête qui finissait toujours en portant les acteurs dans la ville, ça finissait en orgie, c'était, et tout d'un coup, Aristote est arrivé et il a dit « Dehors les bouffons, le théâtre, c'est de la littérature. » Je pense qu'il faut revenir à la célébration des sens et dire « Oui, dans le théâtre, il y a de la littérature. Dans le théâtre, il y a des corps qui évoluent dans l'espace. Il y a du mouvement, il y a de la danse, il y a de la musique, il y a maintenant des images. Le théâtre, c'est total, ce n'est pas que de la littérature. Et il y a des façons autres que de partir du texte. Nous, on est partis littéralement d'images.
C'est sûr.
Peut-être que je
me suis mal exprimée, je crois que la question, c'est est-ce que même si la parole est importante dans le théâtre, est-ce qu'on peut aussi célébrer les corps, les visuels, etc.? Peu importe où on commence dans le théâtre, tous les gens qui font le théâtre, ils essaient d'exprimer quelque chose qui est invisible et de le rendre d'une certaine façon concret. Concret dans le mot, concret dans le cœur, avec les visuels, etc. Mais c'est pas le point de départ qui est important, c'est le chemin. Et puis, il faut juste définir son raison d'être au départ. Qu'est-ce que je veux essayer de bâtir dans cet espace que j'appelle le théâtre? C'est là où on fait le choix.
Merci beaucoup, Annabelle. Alors, je vous laisse partir parce qu'Annabelle doit
filer
à Radio-Canada. Non, parce qu'elle a une entrevue maintenant sur un spectacle qui commence après-demain. Alors, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez conclure mais brièvement, Lorraine?
Merci. Je m'excuse que je dois continuer.
Merde. Non, simplement dire que je trouve la parole des auteurs aussi. C'est très intéressant d'avoir entendu des auteurs parler. Parce que ce théâtre engagé, au départ, il vient aussi des auteurs, et beaucoup des auteurs. Et c'est très, très... Ça vient de vous aussi, là. Nous, les metteurs en scène, on suit le courant. Si on a le plaisir d'écrire en marge, tant mieux. Mais si on est metteur en scène, je considère encore qu'on est au service d'une œuvre.
Merci, Lorraine. Sylvain, un mot de conclusion?
Oui, un mot de conclusion.
C'est toi qui
conclue. J'en aurais plusieurs. Non, mais je pense qu'on fait un art de communication et il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais oublier à qui l'on parle. J'enseigne à l'École nationale depuis quelques années. Je leur dis toujours ça, que ce soit sur scène, comme auteur, par rapport à un spectateur, comme acteur, comme personnage par rapport à l'autre. Toujours parler à quelqu'un. Sinon, le théâtre devient un objet pour soi. J'aime mieux un acte pour l'autre. Donc, de jamais oublier qu'il y a quelqu'un à l'autre bout et qu'on lui parle. Ça, c'est important. Mais ça a l'air évident, comme ça.
Non.
Mais souvent, dans une salle de répétition, souvent lors d'une production, c'est quelque chose qui peut s'oublier très facilement. Donc, le théâtre, si on veut l'attacher au monde, parce que c'est ma principale obsession, mais je pense qu'il faut toujours garder une forme d'interlocuteur présent.
Merci. Je pense qu'il y a eu quelques paroles très, très fortes qui se sont échangées, en tout cas qui vont rester dans nos mémoires. Et puis, je vais essayer de faire un article à partir de cette bouillie. Et je vous invite à lire le résultat dans le numéro 139 de jeu, Michel. Oui, qui va paraître en juin, c'est ça. Alors, merci beaucoup. Merci à tous.
Merci.
Radio Spirale.